Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Chaque mercredi, entre 17h30 et 18h, vous avez rendez-vous avec Lille 1 Info, le magazine qui vous parle de l'université de Lille 1. L'université Lille 1 est riche en laboratoires, certains se développent, certains se transforment. C'est le cas aujourd'hui d'un laboratoire qu'on va présenter. Il s'agit d'une unité de catalyse et chimie de solide. Pour présenter ce laboratoire, j'ai le plaisir d'accueillir M. Edmond Payen. Bonjour M. Payen.
Bonjour monsieur.
Et Pascal Baranec. Bonjour Mme Baranec.
Bonjour.
Donc, ce projet est en pleine phase de construction, on va dire, parce que la première pierre va être inaugurée, on va dire, comme ça. Monsieur Edmond Payen, donc, vous êtes directeur adjoint de la Fédération de recherche Michel-Eugène Chevreuil.
Exactement.
Et donc, c'est une fédération de recherche qui comprend un grand nombre d'acteurs.
Bien sûr, oui, environ 250 chercheurs dans cette fédération, qui est portée entre autres par l'Université de Lille 1. Cette fédération est dirigée par Jean-Marc Lefebvre et elle regroupe plusieurs unités de l'ensemble de la chimie, donc l'UCCS, nous-mêmes, qui est dirigée actuellement par Lionel Montagne, l'UMET, qui est dirigée par M. Legris, le LASIR, qui est dirigé par M. Bintinx, et UNEA, CMF, qui est dirigée par Jean-Marie Aubry. Et une USR qui est dirigée par M. Rolando.
Donc là va être construit un hall pilote de catalyse. C'est difficile de construire, les mètres carrés sont assez rares sur l'université, donc il y avait une nécessité.
Bien sûr, il y avait une nécessité en termes de mètres carrés, mais aussi en termes de bâtiments que l'on pouvait construire pour respecter les nouvelles normes d'hygiène et sécurité. Ce qui ne pouvait pas être fait dans l'ancien bâtiment que nous occupions.
Pour résumer, c'est un laboratoire de catalyse, donc qui dit catalyse dit utilisation de produits qui peuvent être dangereux.
Bien sûr.
Au départ, vous travaillez sur quel domaine particulier, quel type d'expérimentation ?
Alors, la catalyse au départ à Lille s'est développée il y a déjà très longtemps et c'était principalement de la catalyse hétérogène. Il y a eu différentes applications d'hydrogénation, d'hydrotraitement, différents procédés qui sont utilisés dans l'industrie. D'ailleurs, le laboratoire a participé à ces développements dans l'industrie. Et ces besoins dans l'industrie évoluent en fonction du temps et aussi les contraintes. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir d'un produit qui était le charbon dans les années 50, puisque le laboratoire a été créé en 1952, alors qu'ensuite on est passé aux ressources pétrolières, et maintenant nous nous orientons vers des produits issus de la biomasse. Donc la chimie est différente, la catalyse est différente.
Les normes de sécurité évoluent également ?
Bien sûr, les normes de sécurité évoluent d'abord parce qu'en 1952, on travaillait sur du matériel de laboratoire et on a été obligé de se rapprocher des conditions industrielles et donc automatiquement de travailler avec des réacteurs sous pression. Ça, ce n'est qu'un exemple tout simple. Et du même coup, travailler à 50, à 70, 100 bars n'est pas la même chose que de travailler à la pression atmosphérique. Et les normes, je dirais, d'hygiène et sécurité se sont fortement durci ces dernières années pour l'utilisation de ce type de matériel. Deux problèmes, le risque d'explosion et le second problème, c'est le risque CMR.
CMR ?
C'est toute manipulation de produits cancérigènes, mutagènes et rétroprotoxines.
Ouais, effectivement, on touche là des problèmes de sécurité qui engagent la responsabilité de l'université.
Je pense, oui.
Donc il faut trouver les bonnes façons de résoudre ces problèmes et donc de s'adapter à la fois à ces normes mais aussi à ces besoins évidents en matière de sécurité.
Exactement.
Donc vous avez fait le choix, plutôt que de rénover un bâtiment existant, d'adapter ce bâtiment, mais aussi de transférer une partie de ses activités dans un bâtiment nouveau.
Oui, nous avions envisagé, donc il y a déjà pas mal de temps, puisque le projet a été un peu évoqué en 2004-2005, quand on avait eu un audit de sécurité. Et là, on avait envisagé les deux solutions, soit mettre aux nouvelles normes l'ancien bâtiment, mais on manquait de mètres carrés pour respecter, cette mise aux normes de sécurité. Et ensuite, il n'était pas possible de respecter les normes de sécurité. Si on a du matériel dans une cellule, il faut qu'il y ait une possibilité, s'il y a une explosion, qu'il y ait un système anti-déflagrant, c'est-à-dire soit le toit, soit un des murs de la cellule qui s'écarte. Et ça, sur les anciens bâtiments, ce n'était pas possible.
Donc quand on dit que c'est un réacteur pilote, il est pilote en quoi exactement ?
Ah, c'est un vocabulaire industriel, c'est-à-dire que quand on développe par exemple un nouveau procédé ou un nouveau catalyseur, on a différentes étapes qui permettent de passer de l'étude de laboratoire, de la poudre à quelques centaines de milligrammes, à un réacteur, ce que vous pouvez voir par exemple sur une unité de raffinerie. On passe pas de 200 milligrammes à 10, 20 tonnes de catalyseurs dans un réacteur. Donc il y a différentes étapes. Nous ici, nous travaillons avec des réacteurs sur des sources réelles et non pas sur des sources modèles pour les traiter. Donc sur des gazoils par exemple, on travaille sur le gazoil qui nous sont fournis par les industriels. On ne va pas le chercher à la pompe. On fait des tests jusque 20 ou 30 grammes de catalyseurs. Ensuite, l'industriel passe à 300 grammes généralement, et après il voit si les propriétés sont maintenues. Ensuite, il passe à 4 kilos, et ensuite, il va peut-être passer à ce qu'on appelle des pilotes d'essai.
Voilà. Donc, ces pilotes servent à modéliser un peu des concepts que les entreprises, après, adaptent à leurs besoins et à leur mode de fonctionnement ?
On peut dire ça, oui.
Donc, qui utilise ces outils, ces matériels ? Qui fait les expériences dans le site pour l'instant ?
Ah bien, généralement, ce sont les doctorants. Ils sont formés à ça. Et je crois que c'est très utile pour aller dans l'industrie de savoir comment est fait un pilote, parce que là-bas, lorsqu'ils seront dans l'industrie, ils travailleront sur des pilotes beaucoup plus gros. Et ils savent au moins, ils comprennent la conception du pilote, et je crois que c'est très important pour ensuite aller réellement travailler dans l'entreprise.
Beaucoup d'industries sont en relation avec vous pour faire des recherches et peut-être modéliser des outils.
Oui, mais nous sommes Lillois et nous avons beaucoup de relations avec des industriels français. Je penserai à Total, à Diceo, Roja, ce sont les gros groupes de chimie français, quoi. Mais Total étant européen, nous avons par exemple des relations avec la Belgique et le centre de Feluy.
Madame Barnec, donc vous êtes responsable de la mise en fonction de ce projet, des problèmes opérationnels. Au départ, quelles étaient les problématiques de façon assez précise ? Comment vous avez géré aussi ?
En fait, ce qu'il a fallu faire dès le départ, c'est recenser tous les besoins des opérateurs. Donc, que ce soit en termes d'aménagement du futur hall pilote, donc définir un certain nombre de ce que nous on a appelé de cellules. Donc c'est en fait des mini-labos, il y aura 12 cellules dans le futur hall pilote. Et dans chaque cellule, on a dû rencontrer donc les responsables d'équipe, les responsables des doctorants, notamment avec parfois les doctorants, pour connaître leurs besoins en termes de ventilation, par exemple, de gaz, toxique ou non toxique, les pressions d'utilisation. Donc, leurs besoins en eau, par exemple, des points d'eau chaude, d'eau froide, selon les besoins. Donc, vraiment, regarder le détail de la salle assez précisément pour pouvoir penser au mieux à l'aménagement.
Donc, un recensement, on va dire, des besoins, des problèmes éventuels, oui, et aussi un cahier des charges.
Oui, tout à fait. Un cahier des charges donc, que nous avons écrit avec l'aide d'un programmiste, donc une société Espace Cube qui était représentée par M. Falaise, et qui nous a aidé à traduire en fait, nos besoins de chimiste en termes de langage plus du bâtiment et technique du bâtiment.
Donc pour ce bâtiment, vous avez fait appel à l'extérieur, à l'université, on ne construit pas les bâtiments. En fonction de quoi vous avez choisi l'opérateur ?
En fait, un appel d'offres a été lancé et on avait eu cinq propositions. Et on a, donc que ce soit les utilisateurs, mais aussi avec l'aide donc, de l'université, du CNRS et justement du programmiste, on a étudié les cinq propositions, donc vraiment par rapport à nos besoins. Donc on avait écrit un cahier des charges initialement pour lancer l'appel d'offres et on a regardé point par point ce qui correspondait le mieux à nos attentes.
Un bâtiment comme celui-là, il est conçu pour durer combien d'années ?
Très longtemps. Alors on s'est quand même offert une possibilité d'extension. On s'est gardé, donc on a demandé en bout de bâtiment de garder une réserve de 30% d'extension en plus. Parce que les thématiques évoluent et donc on s'est laissé un petit joker, on va dire.
Donc, comme on le disait, les normes ont évolué en termes de sécurité. Quels étaient les problèmes principaux que vous avez dû résoudre ?
Alors, je pense que le problème principal, c'est ce qui concerne le réseau de gaz. Parce qu'actuellement, ces trois, la plupart des gaz utilisés le sont, mais sous forme de bouteilles, en fait, de cylindres B50. Qui sont donc des cylindres dangereux à manipuler ou qui peuvent, si un manomètre est mal, un manomètre, donc ce qui permet de mesurer la pression, est mal adapté, peut exploser. Et donc là, les nouvelles normes nous imposent d'avoir un réseau de gaz extérieur. Donc il a fallu penser vraiment à connaître le besoin en gaz, mais la nature des gaz, les différentes pressions et à voir comment nous allions amener ces différents gaz dans le nouveau bâtiment pour respecter les normes de sécurité.
Quel type de gaz on peut rencontrer ?
Alors les plus toxiques seront l'H2S et le CO. Et après, donc, nous utilisons d'autres gaz comme l'hydrogène, l'oxygène, l'argon, l'azote, essentiellement.
Voilà, donc je n'ai pas remarqué d'odeur suspecte. Style H2S, donc ce qui veut dire quand même que depuis un certain nombre d'années, c'est blindé, c'est protégé.
Ah oui, bon, nous essayons de protéger, mais le fait d'avoir ces gaz au sein même du laboratoire est un facteur de risque supplémentaire en termes de toxicité ou d'explosion. Et donc le fait de pouvoir les sortir évite quand même... enlève un risque.
Dans le passé, on n'a pas la mémoire d'un accident ?
Non, heureusement. Bon. Pas chez nous.
Pas chez nous, mais en France, oui.
Voilà. Donc, comme on dit, la peur n'évitant pas le danger, autant prendre les précautions nécessaires.
Tout à fait.
Là, on est en phase de finalisation de la construction. Qui sera opérationnel quand ?
La fin de la construction est prévue pour fin 2011, donc on espère inaugurer officiellement le bâtiment, on va dire raisonnablement, premier semestre 2012, peut-être deuxième trimestre 2012, on espère.
Oui, c'est-à-dire qu'on a un problème pour les transferts du matériel, des pilotes, il faut que ça tombe assez en cohérence avec la fin des thèses en cours. C'est-à-dire que les thésards ont une sorte de contrat, ils rédigent leur thèse au bout de 3 ans, et on ne peut pas arrêter le pilote en plein milieu de la thèse, parce que un pilote arrêté, transféré, il faut au moins considérer 6 mois pour le transfert et le redémarrage, parce qu'on aura des problèmes au redémarrage, et donc automatiquement, on ne peut pas couper la thèse du thésard, quoi. Et on prévoira des redémarrages avec des décalages. Alors le problème aussi, c'est que on a déjà anticipé sur ce problème du déménagement. C'est-à-dire que tous les pilotes, non, pour l'instant, on en a 70%, Pascal, de ces pilotes ont été remis aux normes. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas aux normes de sécurité non plus. Les bâtiments n'y étaient pas, mais nos réacteurs non plus. Et donc, on a, depuis 2005, on a fait une opération qui a été soutenue, là, dans ce cas-là, par le CNRS, une remise aux normes de ces bâtis qui seront transférés dans le nouveau hall pilote. Donc, il y aura des problèmes de couplage de la sécurité des halls des pilotes avec la sécurité du bâtiment.
Donc, cette extension de bâtiment, cette réadaptation aussi, est-ce qu'on peut imaginer que cela favorise un développement significatif de l'activité du laboratoire ?
Nous l'espérons tous. Hein. Nous espérons faire perdurer les relations que nous avons avec les industriels et en attirer d'autres, justement, grâce à ces possibilités.
Grâce à cette nouvelle infrastructure, oui. Qui, on espère, sera une vitrine de la catalyse. Mmh.
Alors, on va peut-être rappeler vos spécialités. Il y a par exemple la désulfuration du gasoil.
Oui, ça c'est la mienne, mais il n'y a pas que ça.
Alors, il y a quoi encore ?
Alors, pour compléter, nous travaillons aussi dans le domaine de la synthèse de Fischer-Tropsch, qui permet actuellement de produire des carburants de type gasoil qui soient propres, exempts de tout métaux à éliminer, comme dans le cas des sources pétrolières. Et ça rejoint un peu le projet qui devrait se développer sur le site de Total de Dunkerque, qui a été annoncé, la synthèse de carburant par le projet Beautifuel. Il y a l'oxydation, on faisait beaucoup d'oxydation ménagée des alcanes pour faire un peu tous les produits qui pouvaient servir en pétrochimie. On faisait aussi de la production d'hydrogène. Ça, on en parle beaucoup. Actuellement, le laboratoire est porteur d'un projet européen, un projet que porte Franck Duménil, qui porte sur tout ce qui est la valorisation de la biomasse, principalement seconde génération, des biohuiles, pour construire, développer des systèmes de bioraffinerie. Il y en a encore d'autres. L'environnement. Là, c'est l'épocatalytique, c'est ce que vous connaissez le plus, mais il y a aussi travailler sur la remédiation, en quelque sorte, et l'élimination de toutes les vapeurs, les composés organovolatiles, donc soit, je dirais, en sociétal, c'est-à-dire au niveau de l'habitat ou tout ça, mais aussi au niveau des industries, l'évacuation des solvants dans des entreprises, donc toutes ces vapeurs à éliminer, ou même les NOx, puisqu'on parlait des pots catalytiques, il y a aussi tous les problèmes des NOx à éliminer dans les industries qui en produisent, quoi.
Alors, c'est vrai que ce laboratoire existe depuis 1952, au départ à Lille, ensuite à Lille 1, enfin à l'Université des sciences et technologies. On peut dire que depuis la réflexion de la société sur les besoins d'environnement, etc., c'est quelque chose qui vous a amené un redéveloppement de l'activité dans d'autres domaines.
Ah oui, le nombre de thématiques a évoluer et toujours pour répondre, je dirais, pour fitter assez bien, pour coller aux demandes de la société ou des entreprises, mais les deux étant liés d'ailleurs. Actuellement, on a des systèmes pour répondre aux appels à projets. Ils sont également dans ce... Nous avons les ANR thématiques, par exemple. C'est sur des projets, sur des thématiques bien définies. Automatiquement, les laboratoires évoluent en fonction de la pression extérieure.
Donc cette évolution des laboratoires, est-ce qu'elle est complexe pour les personnes qui y travaillent ou bien est-ce que naturellement vous avez dans votre schéma de pensée et dans votre structuration d'esprit la nécessité de vous adapter à n'importe quel problème de cet ordre ?
S'adapter à n'importe quel problème, non. Non, je crois que nous avons des compétences dans certains domaines, nous l'avons pas, on en a en chimie du solide, là où on travaille sur par exemple des électrodes, ou en chimie fine, mais en catalyse homogène, mais nous avons des thématiques bien définies. On essaye de toujours rester quand même dans nos compétences, on ne prend pas de projets dans lesquels nous n'avons aucune compétence, il faut quand même que sinon... Ou alors on a décidé, et c'est ce qui a été fait en 2005, nous avons recruté un professeur et nous avions décidé cette fois de monter une nouvelle thématique sur ce qui est un peu la valorisation de la biomasse. Mais ça relevait d'une décision et de créer une nouvelle équipe.
Très bien. Mais donc, je pense que si on veut en savoir plus, on peut peut-être voir un petit peu un site où on retrouve votre présentation de laboratoire.
Oui, exactement. Le site, j'aurais du mal à vous le citer, le site web. Enfin, vous tapez sur Google UCCS et le directeur du laboratoire actuellement, c'est M. Lionel Montagne. Voilà. Le directeur adjoint étant M. Franck Duménil.
Merci Edmond Payen, merci Pascal Baranek et donc bonne inauguration.
Merci.
Merci, on vous invite.